Bonjour, chers auditeurs de Radio Galère. Fidèles à notre émission hebdomadaire, Une heure en Palestine. Aujourd'hui, l'émission, vous vous en doutez, sera en grande partie consacrée aux événements dramatiques qui ont brusquement fait éruption dans nos vies. Cette actualité n'est que la partie visible de l'iceberg de souffrance que vit tout un peuple quotidiennement depuis des décennies. Voilà, nous allons commencer par la musique de Férouz, le chant de Férouz, Jérusalem dans mon cœur. Jérusalem dans le cœur des défenseurs de la cause palestinienne et dans le cœur des Palestiniens. Jérusalem a bien besoin de notre soutien. Bref, qu'avez-vous pu voir et entendre depuis une dizaine de jours sur les différentes télés et radios de notre pays? Si on résume, un peu caricaturalement, mais quand même, premièrement, que des jeunes Palestiniens sont à l'origine des débordements à la mosquée Al-Aqsa, obligeant la police israélienne à intervenir. Un journaliste a même affirmé qu'ils avaient des bières et des cocktails Molotov. Deuxièmement, que le Hamas envoie des milliers de roquettes sur Israël qui, pour se défendre, bombardent Gaza. Troisièmement, qu'en Israël, des Arabes avaient attaqué des Juifs et saccagé les maisons. Il y a même un journaliste qui a eu quand même l'honnêteté de reconnaître que depuis plusieurs années, il ne s'était pas préoccupé de la Palestine. Et ce journaliste est responsable d'une émission politique. Voilà ce que, en gros, on a pu entendre. Mais les faits sont bien différents. Et les faits sont têtus. En réalité, depuis le début du Ramadan, donc mi-avril, Israël a imposé des restrictions aux Palestiniens pour accéder à la mosquée El-Aqsa. La mosquée est le troisième lieu sacré pour les musulmans. Dès le premier jour de Ramadan, les forces israéliennes sont entrées dans l'enceinte de la mosquée et ont coupé l'électricité des haut-parleurs, bloquant l'appel à la prière. C'est la première provocation. Ce qu'on entend par forces israéliennes, c'est la police et parfois l'armée qui se joint à la police. Deuxième provocation, l'installation de barrières à la porte de Damas. La porte de Damas, c'est une des portes d'entrée dans la vieille ville et donc une des portes d'accès pour aller vers la mosquée El-Aqsa. Alors, l'installation de ces barrières, c'était pour empêcher les fidèles d'assister aux prières nocturnes. Ces barrières, Israël a dû les retirer suite à de nombreuses protestations. On peut ajouter une troisième provocation, qui est l'expulsion d'habitants du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. J'y reviendrai un peu plus tard. Quatrième provocation, le 22 avril, pendant Ramadan, des centaines de partisans du groupe d'extrême droite israélien Lehana a attaqué des maisons palestiniennes pour en chasser les habitants, ce qui a conduit les Palestiniens à s'affronter à ces extrémistes qui criaient « mort aux Arabes » et qui brandissaient des pancartes où était écrit « tuez-les tous ». Une cinquième provocation fut celle de colons extrémistes, suprémacistes, qui ont annoncé que le 10 mai, ils marcheraient à travers la vieille ville de Jérusalem pour célébrer ce qu'ils appellent le jour de Jérusalem. Et en fait, ils se préparaient à s'approcher de la mosquée El-Aqsa. Cette dernière provocation a dégénéré en une nouvelle prise d'assaut de la mosquée. Je dis nouvelle car déjà le 7 mai, lors de la prière du vendredi, les forces israéliennes avaient pris d'assaut la mosquée, ce qui avait fait 200 blessés. Cette seconde attaque a eu lieu à l'intérieur de la mosquée, alors que les fidèles priaient. Il y a eu des jets de grenades, divers tirs et des saccages de ce site sacré, et évidemment, bien sûr, plusieurs centaines de blessés. En aviez-vous entendu parler? Eh bien non, certainement pas par les médias officiels, mais par les réseaux sociaux et divers autres canaux. Tous ces faits sont avérés, vérifiables, car de nombreuses vidéos qui les prouvent circulent.
À propos du rôle des médias, je vais rappeler cette phrase toujours d'actualité, une phrase de Malcolm X, militant des droits des Afro-Américains. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les opprimés et à aimer ceux qui les oppriment.
Oui, effectivement, il faut être très vigilant avec les médias, surtout les médias officiels de notre pays. Il y a maintenant de nombreuses façons de s'informer, de chercher les bonnes informations si on est vigilant et attentif. Alors, toutes ces provocations ont entraîné une vague de colère et de ras-le-bol qui a submergé tous les Palestiniens, qu'ils soient des territoires occupés, de la Cisjordanie, qu'ils soient de Jérusalem-Est ou de Gaza ou même d'Israël. À ce propos, d'ailleurs, les Palestiniens qui vivent en Israël, qu'on appelle communément les Arabes israéliens, du côté d'Israël ou bien du côté de la Palestine, on les appelle les Palestiniens de 1948, c'est-à-dire ceux qui ont pu rester au moment de la Nakba, ceux qui n'ont pas été expulsés. Or, ces citoyens israéliens n'ont pas les mêmes droits que les citoyens juifs en Israël. Ce sont des citoyens de seconde zone, discriminés. Il y aurait beaucoup à dire sur leur situation. Cela fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Voilà. Mais le plus important de ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois depuis la fin de la deuxième intifada en 2005, les Palestiniens des territoires occupés de Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza et d'Israël se sont dressés ensemble contre la politique israélienne à leur égard. C'est l'expansion des colonies sur les terres des paysans, la brutalité de l'occupation militaire, le siège de Gaza depuis 2007, les politiques discriminatoires par centaines, le nettoyage ethnique à Jérusalem, les expulsions et les destructions de maisons qui ont conduit à ce soulèvement historique. Ce chant que vous venez d'entendre s'intitule « Retour à Yaffa ». Yaffa qui est le nom arabe de Jaffa, la ville palestinienne jumelle quasiment de Tel Aviv, voilà, qui est une ville ancienne dont beaucoup de réfugiés sont originaires. La judaïsation de la vieille ville de Jérusalem, je l'ai constaté après année après année. Mais je vais revenir quand même sur ces deux quartiers de Jérusalem Est, d'où 2100 Palestiniens vont être expropriés et expulsés.
Oui, tu connais bien ces deux quartiers puisque tu y allais chaque année depuis 2006, particulièrement à Sheikh Jarrah. Est-ce que tu peux développer là-dessus ?
Alors, Sheikh Jarrah, effectivement, est un quartier palestinien, à dominante palestinienne, qui voit sa situation se dégrader année après année. Ce quartier est l'exemple parfait du nettoyage ethnique dont sont victimes les Palestiniens. C'est un élément de la politique de judaïsation de Jérusalem mise en place dès le lendemain de la guerre de 67, puisque en 67, Israël s'est approprié Jérusalem, puis l'a annexé officiellement en 1980. Les familles palestiniennes de ce quartier sont déjà des réfugiés de 48, principalement de Haïfa. La politique d'expulsion a démarré très rapidement. Les procès d'expropriation ont commencé en 72. Mais dès 1967, des colons réclament ces maisons en allant exhumer des archives datant de l'Empire ottoman, avec des titres de propriété invérifiables, voire falsifiés. Le sort de ces familles a amené des soutiens d'Israéliens dans un premier temps. Et maintenant, chaque vendredi, depuis des années, une manifestation a lieu à l'entrée de ce quartier qui mêle Israéliens, habitants du quartier et internationaux de passage, comme moi par exemple. Les pancartes portées par les participants à cette manifestation sont très claires. Ils sont en trois langues, hébreu, arabe, anglais. Je vous en donne quelques-uns. Non au nettoyage ethnique de Sheikh Jarrah. Un autre, Sheikh Jarrah, c'est la Palestine. Un autre, stop aux colonies dans Jérusalem Est. Et le dernier, non à l'occupation. Ça me rappelle qu'en octobre 2008, j'avais participé à une veille citoyenne d'internationaux et d'Israéliens de diverses ONG pour empêcher l'expulsion totale d'une famille, la famille Al-Kourde. Je dis totale parce qu'une famille de colons avait déjà volé la moitié de leur maison. Et nous étions avec la famille Al-Kourde dans la cour et on avait alors assisté, médusé, à la célébration par ces colons de la fête de Soukhot. Nous étions à peine à 3 mètres d'eux et ils nous narguaient. On dormait sur place dans la cour sous une tente. Finalement, cette famille a été expulsée. Elle s'est retrouvée à camper sur le terrain vague au-dessous de leur maison. C'est là que le papa est décédé, début novembre 2008, d'une crise cardiaque. Voilà ce que c'est que la vie des gens dans ce quartier. J'ai aussi vu des meubles sur le trottoir pour des familles qui avaient été expulsées, donc trottoir qui était en face de leur maison. Un autre exemple que je peux donner, c'est celui de Ramzi, un habitant du quartier qui nous fait visiter ce quartier en octobre 17. Je l'ai enregistré, vous allez l'entendre, c'est en anglais, c'est très facile à comprendre. Hein. Ramzi d'ailleurs a été arrêté pour la énième fois, récemment, très récemment, il a eu la jambe cassée lors de son arrestation. On écoute Ramzi, écoutez bien, c'est très court, c'est très bref.
Si après, les Turcs, la big land pour l'Europe, and they be a building for the system now.
Je vais traduire, mais bien sûr, vous aurez compris ce que disait Ramzi. Il nous disait que les maisons étaient prises pour... il prenait les maisons pour y mettre des colons. Et en même temps, il nous montrait un terrain qui était un peu plus haut, dans lequel il y avait un immeuble. Et il nous disait qu'ils avaient déjà pris... Ce terrain et qu'il y avait construit pour les colons. En fait, c'est un quartier semi-résidentiel avec des hôtels de grand luxe et donc c'est la raison pour laquelle les Israéliens veulent s'approprier la totalité de ce quartier. Bref, pour revenir à la vie de ces familles, tous les recours qu'elles font auprès de la justice israélienne sont voués à l'échec. La Cour suprême israélienne finit toujours par donner raison aux colons, vous vous en doutez. En février 2021, cette même Cour suprême a accordé à des colons juifs le droit de propriété sur de nombreuses maisons de ce quartier. Mais suite à une vague de protestations des habitants, elle leur a proposé un compromis. Écoutez bien, renoncez à vos droits de propriété, devenez locataire des colons en leur payant un loyer. C'est hallucinant, mais véridique. La perte de leur maison condamne de facto ces familles à devoir quitter Jérusalem, car il va leur être impossible de trouver un logement vacant. Et quitter Jérusalem, ça signifie à terme la perte de leur carte de résident, puisque tout Palestinien vivant à Jérusalem n'est autorisé à y habiter que s'il possède cette carte qu'il doit, comme une sorte de carte d'identité, qu'il doit renouveler régulièrement et qui régulièrement, d'ailleurs, leur est supprimée. Donc ces familles, en perdant leur carte de résident, perdent à la fois leur logement et donc leur travail. Et de fait, elles redeviennent des réfugiés.
Que peux-tu nous dire de Gaza plus précisément ?
Alors Gaza, qui fait la une, bien sûr, c'est là qu'Israël fait ce qu'il sait le mieux faire. Tuer les Palestiniens, femmes, enfants, vieillards, résistants. Ce qu'on entend sur toutes les chaînes d'information en France est qu'Israël se défend contre l'avalanche de missiles tirés par le Hamas à partir de Gaza. Mais la résistance de Gaza n'est que la réponse aux assauts israéliens contre la mosquée Al-Aqsa, la réponse aux expulsions à Sheikh-Jarrah et la réponse à leur propre situation à ciel ouvert, puisque Gaza est devenu un véritable ghetto. Voilà. Gaza, d'ailleurs, est habitué aux décomptes macabres. Oui, nous avons un appel d'une amie qui souhaite intervenir sur l'antenne. Nous lui passons la parole. Bonjour, Safia.
Oui, bonjour.
Bonjour. Tu peux nous donner des nouvelles de Gaza ?
Oui, tout à fait. En fait, le plus important, je pense que je vous passe directement l'enregistrement que mon ami de Gaza m'a fait.
Oui.
Et après, c'est en arabe, et après, je vous traduirai ce qui a été dit.
D'accord.
D'accord ?
Oui, oui.
أهم رسالة بس بنضل بنقولها إنه عن جد صار إلنا أكثر من 70 سنة 73 سنة الفلسطينية بنقول إنه الاحتلال ضد فلسطين، إنه كل إشي متعلق بالاحتلال أول وثاني وعاشر، إنه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كل هاي الأشياء لاحقة كلنا إحنا بنعمر البلد ونبنيها من أول وجديد، بس كل إشي بقول وقف هذا الاحتلال، وهذا تحت نظر المجتمع الدولي اللي واقف بتفرج بدون ما يقدم أي نوع إما من الحماية أو من العدل على الأقل باتجاه حقوق الفلسطينية ببلادهم. موافقة كل المجتمع بتهدم بيوت، بتهدم بنايات، بتقتل أطفال، أكثر من 51% من الأطفال اللي انقتلوا خلال 8 أيام هم عن جد أطفال ونساء، ما لهم علاقة بأي إشي مسيس أو زي ما بتدعي إسرائيل. نفس الإشي بالبنايات، نفس الإشي بالجرح، أعداد هائلة باتجاه مدنيين وأطفال نساء أكثر من أي إشي تاني. كل اللي بتقوله إسرائيل الباقي تاني هذا مش مظبوط، على الأرض الأرقام بتحكي والصور الأطفال الشهداء كثير عمالها بتحكي. اقتصاد مش بس اليوم، إسرائيل من زمان حاطة غزة تحت حصار لسنوات طويلة، بتمنع كل إشي يمرق، بتمنع كل إشي يطلع، كهرباء عدد ساعات كتير قليل 8 ساعات لمدة بنحكي عن 14 سنة هلأ مثلا صرنا، وهلأ بالحرب قصفوا كمان أو قللوا عدد ساعات وبيهددوا هلأ تصريح أنهم ينهوا كمان محطة الكهرباء بشكل نهائي. لقبل نهارين كانت بتجينا الكهرباء بس 3 ساعات بالنهار، وطبعا كل شيء تأثر، كهرباء انترنت الى اخر، كل شيء متضرر تماما. يعني ما بتعلموا، ممنوع يسافروا، ممنوع يجوا، ممنوع يروحوا، ممنوع يشتغلوا، ما في دخل للناس، ما في حياه للناس، ما في تعليم للناس، كل شيء بسبب تعنتات اسرائيل ووضعها انها قيود كثير على حياه الناس الفلسطينيه تقريبا. يعني ما يعني هم انه ما ضل غير البنيه التحتيه اللي عن جد كمان هي اصلا متدهوره، واللي هلا بيقصفوا فيها في بنايات ركزت على الصحفيين بشكل كثير كبير، ومنعت اي صحفي انه يمرق غزه ليوثق اي شيء من جرائم الحرب اللي عمالها بترتكبها. أكم من سنة، كل أكم من فترة بترجع إسرائيل بتضرب نفس الإشي، بتدمر كل بنية تحتية، بتدمر أطفال، بتدمر أهالي، بتدمر نساء، بتدمر منشآت اقتصادية، بتدمر مدارس، بتدمر كل إشي من أول جديد، والمجتمع بيقبل وبيطلب من الفلسطينية يضبط النفس. طيب لا إمتى فكرة ضبط النفس مقابل إيش؟ يعني حتى ما في أي حماية تقدم للناس اللي هم أصحاب حق أصلاً. كل إحنا كمؤسسة بنشتغل مثلا دعم نفسي مع الأطفال، تعليم وثقافة وفنون، كل الوقت بنقول إن إحنا هاي أدوات بإيدنا لنساعد إحنا حالنا إنه ناخد يوما ما حياة أفضل، حياة أحسن إلنا ولأجيالنا المستقبلية. كل حرب بتيجي إسرائيل بتشنها على غزة بنرجع من الصفر، بنرجع نداوي زي دور كيف ممرضة، فقط بنحط بلاستر وبنمسح الدم، بنقدم برامج دعم نفسي، بنرجع بالأطفال كأنه عشرات السنين لورا، وبنبدأ نقدم خدمات فقط هيلينج، يعني أكثر بس تحاول تشافيهم اللي يقدروا بس إنهم يعيشوا. بتصفي في فجوة كثير كبيرة بين أحلام وبدك تحققها لحياتك وبين إنه أنت فقط بنحاول نعمل خدمات دعم نفسي للأطفال اللي يقدروا يتعايشوا. يعني سابقا كنا بنحكي عن الكورونا وقديش وضعها على الناس، اقتصاد الناس
منبهدل، ما في. En fait voilà, je vous ai passé un petit enregistrement, il est pas complet parce que c'était assez long. Et je pense laisser le reste du temps pour que je vous traduise un petit peu ce qui a été dit. Pour elle, donc, le message le plus important que l'on continue de répéter, enfin, elle parle d'elle-même, hein, et des Palestiniens, c'est d'arrêter les colonisations israéliennes en Palestine. Cela fait plus de 73 ans que nous, Palestiniens, réclamons l'arrêt de ces colonisations israéliennes. Qu'il s'agisse de la première, de la seconde ou de la dixième colonisation, il faut toutes les bloquer. Tout le reste peut s'arranger après et nous pourrons reconstruire le pays. Ces colonisations se font sous le regard d'une communauté internationale qui observe sans agir. Elles n'offrent aucune protection ou quelconque justice pour le droit des Palestiniens. Avec l'accord tacit de cette communauté internationale, Israël détruit des maisons, des immeubles et tue des enfants. Ils ont bombardé la maison de la famille Dahshan avec une fusée GBU-31 utilisée d'habitude pour détruire les abris blindés. Il y a des photos à l'appui. C'est un vrai nettoyage ethnique. Ces 8 derniers jours, plus de 51% des personnes tuées sont des femmes et des enfants qui, contrairement à ce que prétend Israël, n'ont aucun lien de près ou de loin avec la politique. Il en va de même pour les immeubles et les bâtiments, les structures, les maisons détruites. Tout ce que raconte malheureusement Israël est faux. Il n'y a qu'à voir sur le terrain le nombre incalculable de blessés, qu'ils soient femmes ou enfants. Les images du nombre de cadavres et de dépouilles d'enfants morts en martyrs parlent d'elles-mêmes. Israël a mis Gaza sous blocus depuis des années, ce n'est pas nouveau. Elle interdit toute entrée et sortie du territoire, ce qui a affecté considérablement l'économie. On n'avait avant que 6 heures d'électricité par jour pendant 14 ans, et aujourd'hui, nous n'en avons plus que 3 heures. Hier, Israël a menacé de bombarder définitivement la centrale électrique. Évidemment, tout a été impacté, l'électricité, l'Internet. D'ailleurs, hier, il y avait une grève générale dans tout le pays. À cause des entêtements d'Israël et des restrictions imposées aux jeunes Palestiniens, la vie devient insupportable. Il leur est interdit d'apprendre, il leur est interdit de circuler librement, il leur est interdit de travailler, il leur est interdit de voyager. Du coup, il n'y a plus d'entrée d'argent, plus d'éducation, plus de vie. L'infrastructure qui est déjà dégradée a été complètement détruite. Israël a visé tous les immeubles où se trouvent les sièges des journalistes et a interdit à ces derniers l'entrée à Gaza pour filmer et témoigner des crimes de guerre qu'elle commet. Chaque période, Israël refait la même chose. Elle bombarde et détruit les mêmes lieux, les mêmes structures, les établissements économiques, les écoles, en plus de tuer des femmes et des enfants. Et après cela, la communauté internationale ne réagit pas, mais nous appelle, nous les Palestiniens, à la retenue. Jusqu'à quand devons-nous nous retenir? Et en échange de quoi? Il n'y a aucune protection assurée pour les citoyens palestiniens qui sont dans leur droit de riposter. Pour ma part, je dirige une structure éducative, culturelle et artistique. Nous travaillons ces disciplines avec les enfants et nous mettons un point d'orgue sur le soutien psychologique pour offrir un meilleur avenir aux générations futures. Tous ces outils mis en œuvre sont balayés à chaque fois que les bombardements israéliens, ce qui nous ramène au point de départ. Cela nous oblige à remédier constamment aux blessures psychologiques des enfants de Gaza, comme si nous étions des infirmiers qui utilisons des pansements provisoires, non pas pour les soigner, mais pour simplement les maintenir en vie. Cet état nous fait reculer à chaque fois de 10 années en arrière, ce qui provoque un écart abyssal entre les rêves des jeunes et leur horripilante réalité. Le coronavirus a impacté l'économie et l'éducation des jeunes, ce qui nous a obligés à vivre au jour le jour. L'éducation a régressé. Aujourd'hui, 45 000 personnes sont sans abri et se sont réfugiées dans les locaux de l'UNRWA. Elles n'ont plus de maison. Ces 45 000 personnes proviennent seulement d'un carré de Gaza. Elles ont quitté leur maison pour aller vivre dans des écoles de l'UNRWA. Ces écoles ne sont pas vraiment adaptées pour y vivre, cependant on est obligé de faire avec. Israël a bombardé et détruit l'unique centre de dépistage du Covid. Il ne nous est plus possible de faire aucun test ou de se faire vacciner ou de se faire soigner. Le nombre de personnes atteintes par la Covid a drastiquement augmenté car il ne peut pas y avoir de distanciation sociale au sein des camps de réfugiés. De plus, nous ne possédons aucun traitement médical pour y remédier. Avec toutes ces destructions des infrastructures qu'Israël a commises, il ne nous reste plus de trottoirs, ni de rues, ni d'artères principales, ni de banques. Les circulations sont complètement interrompues, même pour les ambulances. Nous sommes encore confinés dans ce qui nous reste de nos maisons, alors nous ne pouvons pas encore réaliser l'ampleur des dégâts, mais une fois que l'on pourra sortir, cette réalité nous frappera de plein fouet. Je ne peux pas parler des pertes humaines qui ne sont plus remédiables, mais je me contenterai de dire que ces destructions demanderont des dizaines et des dizaines d'années d'efforts et un budget colossal pour ramener Gaza à l'état dans lequel elle était il y a que 8 jours, état déjà piteux au départ. L'administration du président américain Joe Biden a accordé il y a quelques jours une vente d'armes de précision à hauteur de 735 millions de dollars à Israël. Les réseaux sociaux suppriment des comptes, suppriment des posts sur la Palestine, y compris pour des journalistes. Des centaines d'utilisateurs ont indiqué que leur story sur Instagram avait été enlevée de façon arbitraire. Instagram a présenté des excuses et a indiqué que les suppressions étaient liées à un bug technique. Facebook et Twitter ont évoqué des erreurs liées à leur algorithme. En moyenne, 80% des posts seraient supprimés par les réseaux sociaux, notamment à la demande des autorités israéliennes. Je termine avec la traduction de ce que notre ami de Gaza nous a envoyé. J'espère que vous avez pu tout entendre.
et assure RIM de notre soutien et maintient le contact avec elle. Merci beaucoup. Alors, merci, je disais, au moment où notre amie nous a appelés, je disais que Gaza était habituée au décompte macabre. Effectivement, RIM le rappelait. Il y a eu les massacres en 2008-2009, ceux de 2012, ceux de 2014, ceux de 2019. Déjà en 2009, plus de 500 enfants avaient été tués. Et on sait que Israël, par ses snipers souvent, vise volontairement les jambes des jeunes gens et en fait des amputés. Il existe à Gaza plusieurs équipes de foot d'amputés. Nous en avions accueilli une en 2019. Voilà. Israël commet depuis longtemps des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et l'impunité dont il bénéficie est une honte. Israël est un état d'apartheid. Et ne croyez pas que seuls les musulmans sont visés par la police israélienne. J'ai vu qu'en avril de cette année, la police d'occupation avait pris d'assaut les environs du Saint-Sépulcre, lieu saint pour les chrétiens, à Jérusalem, lors du rassemblement de la communauté chrétienne pour la veille de Pâques. Et ça le rappelle évidemment Nelson Mandela, qui a subi le régime d'apartheid sud-africain et qui s'adressait en 2001, vous voyez que c'est pas récent, ça fait 20 ans, à l'éditorialiste du New York Times, Thomas Friedman, en ces termes.
L'apartheid est un crime contre l'humanité. Israël a privé des millions de Palestiniens de leur liberté et de leur propriété. Il perpétue un système de discrimination raciale et d'inégalité. Il a systématiquement incarcéré et torturé des milliers de Palestiniens en violation du droit international. Il a déclenché une guerre contre une population civile et en particulier contre des enfants. Les réponses de l'Afrique du Sud en matière de violence de droits humains provenant des politiques de déportation et des politiques d'apartheid ont mis en lumière ce que la société israélienne doit nécessairement accomplir avant que l'on puisse parler d'une paix juste et durable au Moyen-Orient et de la fin de l'apartheid.
Voilà, 20 ans se sont écoulés depuis ces mots de Nelson Mandela. Et la politique d'apartheid en Israël a empiré, elle s'est institutionnalisée. Voilà. À ça, on peut rajouter un terme qui résonnera peut-être de manière douloureuse dans la mémoire de certains d'entre nous, le mot pogrom. Et nous avons relevé dans Wikipédia la définition qu'il en donne.
Ce mot d'origine russe signifie détruire. Piller. Wikipédia indique que ce mot d'origine russe signifie détruire, piller, qu'il est utilisé pour décrire les attaques accompagnées de pillages et de massacres, sans réaction des autorités ou avec leur assentiment, qu'il désigne de façon générale des violences dirigées contre une partie de la population, contre les minorités ethniques, religieuses ou d'origine différente de cette population.
Voilà. Et à suite à sa définition, Wikipédia multiplie les exemples de pogroms qui se sont déroulés en Russie et dans certains pays de l'Est en des temps pas si lointains, et ce, contre des populations juives. Eh bien, il va falloir que Wikipédia complète ces exemples en puisant dans ce qui se passe pour les Palestiniens. Et les exemples ne manquent pas.
Yeah. أضحى مأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب يعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على
Le titre de cette chanson, Unadikum, c'est « Je fais appel à vous ». Il est de Ahmad Kaabour, le chanteur. Voilà, l'émotion et l'indignation qui se sont manifestées partout dans le monde ces derniers jours montrent la sensibilité de citoyens du monde à la situation des Palestiniens. À Marseille, nous avions prévu, comme chaque année, de commémorer la Nakba. Nakba, la grande catastrophe de 1948, par un rassemblement. Ce rassemblement était appelé par le collectif Palestine en résistance. Et donc, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées ce samedi 15 mai. Des jeunes, des familles, des militants présents et très motivés. Faut-il le préciser, le rassemblement s'est déroulé sans heurts ni débordements, contrairement à ce que laissait croire l'important dispositif policier déployé. D'ailleurs, des dizaines de manifestations ou rassemblements ont eu lieu en France que le gouvernement Macron souhaitait interdire. Le soutien et la solidarité envers le peuple palestinien est un droit et un devoir de notre part. Mais Darmanin, notre pitoyable ministre, confond sciemment solidarité et antisémitisme. Les plus grands antisémites actuellement ne seraient-ils pas plutôt le gouvernement israélien et ceux qui le soutiennent ? La France n'a pas condamné les bombardements sur Gaza, ni la politique de nettoyage ethnique à Jérusalem, ni les violences subies par les Palestiniens au cours du mois de Ramadan. Macron soutient inconditionnellement Israël. Dans un communiqué le 14 mai, il a rappelé, je cite, « son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël et à son droit de se défendre dans le respect du droit international ». D'ailleurs, ces deux derniers mots m'interpellent, parce qu'en matière de droit international violé en permanence, Israël est le champion. Entre les résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées et reconnues par Israël, les violations de la Convention de Genève et d'autres traités en matière de droit international, je crois que là, il y a beaucoup à dire. Alors, le président de la République est donc complice des crimes de guerre commis par Israël. Voilà, nous allons écouter notre amie Régine lors de ce rassemblement et son intervention.
Cela fait 73 ans, 73 ans de violation du droit, 73 ans que le peuple palestinien est privé de ses droits, 73 ans depuis la Nakba, 73 ans que le colonialisme occidental a partagé la Palestine, 73 ans que 800 000 Palestiniens ont été chassés de chez eux et qu'aujourd'hui ces milliers de réfugiés vivent dans la misère au Liban, en Syrie, massacrés à Yarmouk, à Gaza, massacrés régulièrement par les troupes coloniales israéliennes. Cela fait 73 ans, et vous qui criez en bas, où étiez-vous depuis? Où étiez-vous les 10 dernières années, lorsque les enfants étaient pulvérisés? Aujourd'hui, notre gouvernement continue à manifester sa solidarité avec le colonialisme israélien. Aujourd'hui, les Darmanins, aujourd'hui, les Tchotti, celui qui arrête et expulse les enfants à Nice, les enfants immigrés, Le Pen, la fille du tortureur en Israël, Valls, celui qui aime Israël par son ancienne femme, toute la bande des cinq, Tchotti, Darmanin, Valls, Macron, sans oublier le CRI, sans oublier Meir Habib et sa marionnette Chalboumi. Tous ceux-là veulent qu'aujourd'hui les manifestations dégénèrent. Veulent aujourd'hui trouver un prétexte pour faire interdire à jamais la voix de la Palestine dans nos manifestations. Et c'est ce que nous ne leur donnerons pas comme prétexte. S'il y a des provocateurs qui se croient plus forts, s'il y a des provocateurs qui veulent aller se frotter à la police, ne les laissez pas faire. Réagissez, dénoncez. C'est bien de crier notre colère, mais ce n'est pas suffisant.
Je voudrais terminer cette émission par une citation d'un militant israélien, fondateur du Centre d'information alternative à Jérusalem. Michel Wachowski, français militant vivant en Israël, mais ayant aussi la nationalité française puisque né en France, disait:
le peuple palestinien est seul face à un ennemi cruel et déterminé, mais il refuse de courber l'échine et de se rendre. Occupant la ligne de front de la lutte contre la barbarie, les Palestiniens sont la dernière défense du monde civilisé. À ce titre, ils méritent le soutien sans réserve de toutes les citoyennes et de tous les citoyens du monde, car les peuples de la terre ne sont pas prêts à vivre dans un monde où le droit du plus fort remplace les principes de la justice et la force de la loi. Nous sommes tous des Palestiniens, montrons-le dans l'action.
Comme l'a dit notre ami Rim de Gaza, d'ailleurs, je pourrais rappeler que Rim a reçu la médaille de la Légion d'honneur en suite à son action à Gaza envers les enfants après, au moment de la fameuse attaque par Israël qu'on a appelée plomb durci en après 2009. Donc, comme le disait Rim, la population s'est réfugiée vu que les maisons ont été pulvérisée plus que détruite, hein, c'est bien le mot pulvérisé qu'elle a utilisé. La population s'est réfugiée dans les écoles de l'UNRWA, c'est le seul endroit possible, et que là, les populations manquent de tout, puisqu'elles n'ont rien eu le temps d'emporter. Et donc, des collectes sont en cours et vous pouvez y participer. Allez sur Internet, voir les sites de l'association France-Palestine Solidarité ou de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui œuvre d'ailleurs depuis longtemps à Gaza pour soutenir les paysans à travers différents projets, notamment un château d'eau, le développement de pépinières. Gaza est en urgence absolue. Voilà. De plus, je voudrais quand même rappeler que depuis quelques temps, nous travaillons à un jumelage de Marseille avec Gaza. Nous voudrions que Marseille s'honore de se jumeler avec Gaza. Merci, chers éditeurs. Nous allons terminer cette émission avec un chant d'une chanteuse française, Dominique Grange. Faisons tomber le mur. Merci à tous et à la semaine prochaine. Il prend nos terres, il prend nos vies.
Comme Barghouti et Georges Abdallah chassent les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation.
Shut up.